Chers hôtes, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à Vianne. Ici, le pays d'Albret se vit à l'heure médiévale. Mais je manquerai à tous mes devoirs en omettant de me présenter. Je suis Vianne de Gontaut-Biron. Et pour ne rien vous cacher, si la ville porte mon nom, ce n'est nullement le fruit du hasard. Avant de vous emmener plus avant dans la cité, je vais vous narrer un peu mon histoire, qui est malgré tout inséparable de ces lieux. Pour plus de commodité, vous pourrez m'appeler Dame Diane, c'est ainsi que l'on désignait les princesses et autres femmes de haut rang à mon époque. Tout d'abord, je dois vous préciser que, en tant qu'aînée et mon père Vital n'ayant pas eu d'enfant mâle, je suis l'héritière du château de Montgaillard, où je résidais avec ma sœur Indié. Je me suis mariée à l'un des sieurs d'Albret, à Magnussis. Dotée d'une indépendance financière et d'esprit, j'ai pu fonder un couvent pour jeunes filles nobles à Condom. C'est dans ce même couvent d'ailleurs que je finirai mes jours. C'est à ce moment que je décide de léguer mes biens et possessions diverses à mon neveu, Jourdain de Lille. C'est lui qui décidera de construire une bastide à cet emplacement. Ici s'élevait déjà un village, Ville-Longue, qui possédait entre autres une église romane bâtie à la demande des Templiers. Cette église Notre-Dame est toujours visible, située entre Baïse et les contreforts de Montgaillard. La bastide fut fondée en 1284 par un acte de paréage entre Jourdain de Lille et le sénéchal de Guyenne, Jean de Grailly, représentant du roi d'Angleterre, Édouard Ier d'Angleterre. C'est pour cette raison que Vianne est devenue une bastide anglaise. Je vais vous expliquer ce qu'est le paréage. Le paréage, ou pariage, qui signifie « association », est un contrat de droit féodal entre deux ou plusieurs seigneurs. Ce contrat leur assure une répartition des droits et des possessions sur une même terre en contrepartie de la protection du plus faible des seigneurs par le plus puissant. Le paréage peut associer deux seigneurs afin de gouverner une seigneurie ou une province. Le paréage permet notamment de stabiliser les lieux en évitant les querelles de territoire et de richesses, beaucoup trop nombreuses à l'époque. Ainsi, ici à Vianne, Édouard Ier d'Angleterre est devenu suzerain de Jourdain de Lille et vassal du roi de France. Le nom de la bastide fut donc choisi en mon honneur par mon neveu. Malheureusement, celui-ci gagna vite une mauvaise réputation. On dit qu'il commit de multiples exactions sur ses terres et que plus précisément, il ravagea le prieuré attenant à l'église tout en y massacrant les moines résidents. Notre bon roi de France, Philippe le Bel, finira par lui tendre un piège en l'attirant à Paris et le fera pendre. Les plaintes à son encontre s'étant multipliées. À présent que vous en savez davantage sur l'origine de la cité, je vais m'efforcer de vous guider parmi les nombreux vestiges préservés du Moyen-Âge. Le plan de la bastide est typique de ce genre d'architecture, c'est-à-dire très inspiré du camp traditionnel des soldats romains. Le castrum. Le plan est conçu au carré avec au centre une place d'armes qui deviendra plus tard la place du marché. Les premières fortifications viendront s'élever juste avant le début de la guerre de Cent Ans, au début du XIVe siècle. Leur longueur est vraiment impressionnante, 1250 mètres de long. Il faut imaginer le chemin de ronde qui était intégré et les soldats qui veillaient nuit et jour aux portes de la cité. L'ensemble de ce mur d'enceinte comprenait également quatre tours carrées, également appelées « portes », dotées de herses et d'un pont-levis pour franchir les douves. Pour renforcer ce dispositif défensif, quatre tours rondes étaient placées aux angles de la bastide. Si ces hautes murailles et ces tours vous paraissent nombreuses et excessives, n'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, le brigandage est monnaie courante et les guerres longues et meurtrières. Le contrôle des différentes portes de la cité est essentiel pour ne pas laisser entrer l'ennemi, ni même un simple voleur. Les murailles, quant à elles, se devaient de résister à des sièges pouvant durer plusieurs mois. Aujourd'hui, il reste assez de vestiges pour que vous puissiez vous en faire une représentation précise. Les quatre tours carrées et les deux tours rondes s'élèvent toujours au-dessus de Vianne. Sa protection est à présent assurée par un classement au patrimoine national. Elles ont résisté à de nombreuses escarmouches, à des combats entre les Anglais et les Français, et même à plusieurs incendies qui ravagèrent entièrement Vianne. Voilà effectivement pourquoi elles méritent tant d'avoir été classées monument historique en 1886. La conservation des tours a été largement améliorée depuis leur couverture au début du XXe siècle. En effet, elles ne possédaient pas de toit à l'origine. Lors d'attaques, on plaçait un our, une sorte de toit amovible en bois que l'on recouvrait de peaux de bêtes récemment tuées ou d'herbe humide pour éviter l'incendie et protéger les défenseurs. Outre ses tours et remparts qui donnent à la ville son cachet tout médiéval, le plan des rues participe à ce véritable voyage à remonter le temps. Intéressons-nous à présent à l'église Notre-Dame de Villelongue. Édifiée au XIIe siècle, elle fut incorporée à la Bastide lors de sa construction. C'est au XIVe siècle que cette église, entièrement romane à l'origine, fut allongée, dotée d'une porte gothique dans un axe de la nef. La porte romane fut murée et l'église rebaptisée Saint-Christophe. Ce style sobre est ici caractérisé par une nef unique et un chœur, tous deux voûtés en plein cintre. Voyez comment cette forme inspire une représentation de berceau ou de coque de navire retournée. Ce style roman identifiable dès la structure de l'église est également visible dans ses plus petits détails. Les chapiteaux sculptés de la nef, le portail primitif décoré et les nombreuses marques de tâcherons en sont quelques exemples flagrants. De magnifiques chapiteaux sculptés, un portail primitif décoré ainsi que de nombreuses marques de tâcherons font de l'église de Vianne un des plus beaux témoignages de l'art roman en Albret. Les marques de tâcherons sont une forme de signature dans la pierre. C'est ainsi que les tailleurs de pierre marquaient leur travail. Ces formes géométriques sont à la fois simples et facilement identifiables. C'est sans doute grâce à elles que les ouvriers évaluaient leur salaire. Payés à la tâche, chaque pierre marquée était une œuvre incontestable de leur labeur. Parvenez-vous à les voir ? En distinguez-vous plusieurs ? L'église romane a également révélé d'autres secrets. Côté nord de l'église, un ancien prieuré s'appuie sur les murailles. Il fut vraisemblablement abandonné à la Révolution. Côté sud, au pied du mur, près du portail originel, des tombes sur deux niveaux, appelées tombes à logettes, ont été retrouvées. Celles-ci seraient également antérieures à la fondation de la Bastide et dateraient du haut Moyen-Âge à l'époque mérovingienne. Elles nous donnent des indications précises sur la disposition des corps. Les emplacements de la tête, du bassin et des pieds sont délimités. Les corps étaient tout d'abord recouverts de pierre, et quand ils étaient entièrement décomposés, on basculait les ossements dans la partie inférieure de la fosse, libérant ainsi l'espace pour déposer un nouveau corps au premier niveau. Si cette église porte encore, gravée dans sa pierre, les traces des compagnons bâtisseurs, les Templiers ont eux aussi laissé une empreinte forte aux environs. Cette ancienne confrérie qui s'est constituée un fabuleux trésor est porteuse de secrets mystérieux. Elle aurait possédé plusieurs demeures près de Vianne. Ainsi, une belle ferme appelée La Grange pourrait leur avoir appartenu. Beaucoup de lieux-dits comportant ces racines de grange, comme Grangette, La Grangerie, les Granges ou autres, sont très souvent d'anciennes propriétés templières. Pour en revenir à notre église, tout en continuant à explorer les mystères du passé, j'aimerais évoquer avec vous une autre curiosité gravée dans la pierre de cet édifice. Qui sait, peut-être aurez-vous une idée quant à sa vocation. Sur le mur extérieur de l'abside de l'église, une louve y est effectivement gravée. La tradition orale témoigne même d'une seconde louve qui n'apparaît pas sur cet édifice. Seraient donc là les signalements de l'entrée d'un passage souterrain ? La légende dit en effet que le château de Montgaillard serait relié à l'église de Vianne par un passage secret. Un secret d'ailleurs tellement bien gardé qu'historiens ou curieux n'en ont toujours pas trouvé la clé. La louve serait-elle la gardienne de ce passage ? Il est vrai que cet animal est un symbole depuis des milliers d'années. Déjà dans l'Antiquité, elle protégeait et nourrissait les jumeaux, Romulus et Rémus. Cette hypothèse pourrait justifier le fait que l'église a été incorporée au plan de la Bastide. Habituellement, les églises peuvent tout à fait rester en dehors de l'enceinte. S'il est vrai que ce passage a bel et bien existé, il avait sans doute pour vocation d'offrir une fuite rapide à la population de Vianne en cas d'attaque violente. Ou peut-être permettait-il aux soldats postés au château de venir prêter main forte aux habitants ? Si personne ne connaît la réponse à cette énigme, le débat reste largement ouvert, notamment grâce aux signes suggérant l'existence de ce passage et aux traces des Templiers dans les environs. Quel rôle ont-ils pu jouer dans cette affaire ? Leur puissance les conduisait peut-être à être en affaire avec le seigneur du lieu. Notre vie au Moyen-Âge doit vous paraître bien mystérieuse et violente, n'est-ce pas ? Si vous avez besoin d'un peu de tranquillité après ces évocations diverses, je vous suggérerai de vous rendre sur la grande place centrale. Depuis l'un des angles, en faisant un tour complet sur vous-même, votre regard pourra embraser les quatre portes de la ville. Quittez ensuite l'enceinte pour vous diriger en contrebas vers Baïse. Votre destination ? Le port. Le port, qui revit avec la navigation fluviale. Vianne est en effet une escale incontournable pour les plaisanciers qui souhaitent aborder différemment les villes du pays d'Albret. De tout temps, la baïse a été un élément fondamental de l'économie locale. Elle permettait le transport des personnes, mais surtout celui des marchandises. À une époque où les routes étaient peu aménagées et encore moins sûres, les eaux de la rivière étaient une voie confortable et rapide pour tout acheminer. C'est aussi la baïse qui permet de produire de l'énergie. De nombreux moulins sont installés sur ses rives. À Vianne, vous aurez la chance de découvrir à la fois un moulin et une écluse. Un spectacle fascinant. Sur la rive opposée à la cité, un chemin pédestre vous permettra d'y accéder facilement. Il est en direction de Lavardac. À moins que vous ne préfériez partir à l'abordage en bateau, tout est possible au départ de l'embarcadère. Enfin, si vous souhaitez prolonger votre contact avec le Moyen-Âge, je ne saurais trop vous conseiller la visite de Bruches. Cette ancienne place forte qui se trouve non loin de Vianne possède elle aussi des témoignages de cette époque révolue. Les remparts et les tours fortifiées vous sembleront sûrement familiers. En attendant, profitez de ces derniers instants à Vianne pour découvrir ses artisans. Ici, l'on travaille comme autrefois, dans le respect des méthodes traditionnelles, mais toujours dans une perspective d'innovation. Les souffleurs de verre vous démontreront leur savoir-faire à travers leurs multiples créations. Nul doute que si, comme moi, vous aimez les belles choses, vous y serez sensible. Vianne est également une bastide chaleureuse et festive, comme vous le découvrirez chaque vendredi soir d'été au cours de ce qui est un des plus beaux marchés nocturnes du département. Allons, il est temps maintenant pour moi de vous laisser en espérant que ma compagnie vous aura quelque peu éclairé. Nul doute, comme vous y invite la maxime de Vianne, veni, vidi, reveni, que vous reviendrez très vite sur ces terres. Au plaisir de vous revoir en ces lieux.